France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho, une heure en direct sur France Culture pour tout comprendre, au moins ça, aux questions économiques de notre temps. Avec pour commencer cette question, détenir la dette d'un État, est-ce avoir du pouvoir sur lui? Une question que pose entre autres le mot d'ordre apparu la semaine dernière à Davos, Sell America, incitant les fonds à vendre les titres de dette américaine en leur possession. Alors que vaut cette menace et surtout quel risque de la voir se retourner contre ceux-là même qui la brandissent, à l'heure où la plupart des dettes des États sont détenues par des acteurs étrangers et où finalement tout le monde se tient un peu par la barbichette. Nous en parlons avec nos deux invités, un spécialiste du droit, Régis Bismuth, et un connaisseur des tenants économiques des relations internationales, Shaïn Vallée. En seconde partie, place à une autre forme de dette, celle que les individus contractent afin de pouvoir consommer. Nous sommes partis au Brésil il y a deux semaines et aux États-Unis la semaine dernière. Place aujourd'hui à la France et à la façon dont se sont activés commerces, démarcheurs et consommateurs pour créer ce marché dans les années 50. Marché dont les structures sont encore présentes aujourd'hui. Et c'est une histoire qu'a parcourue la sociologue Hélène Ducourant. Et enfin, à 14h55, nous retrouverons Alexandra Roulet et son fil de l'écho où l'on parle des effets positifs du télétravail mesurés par de très sérieuses études. Mais avant tout cela, comme d'habitude, une parenthèse pour revenir sur l'actualité économique de la semaine passée. Difficile cette semaine de passer entre les gouttes de Davos, des menaces renouvelées puis abandonnées de relance de la guerre commerciale, les gouttes aussi du Mercosur qui a fait grand bruit lorsque le Parlement a saisi mercredi la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité de ce traité, ce qui suspend de fait le processus de ratification pendant un an et demi, et les gouttes enfin à travers lesquelles est passé lui-même Sébastien Lecornu vendredi dernier après le rejet de deux motions de censure. Ce dernier, après avoir engagé un 49-3 pour la partie recettes du budget mardi, en a engagé un second vendredi sur la partie dépenses, et évidemment les commentaires sur la pertinence et surtout l'efficacité de ce budget sont pour le moins rudes à travers tous les titres de la presse française. Alors que se passe-t-il donc en dehors de cette actualité très commentée par ailleurs? Passer entre les gouttes ne veut pas forcément dire que les nouvelles sont pour autant réjouissantes. Mardi, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a publié un rapport qui fait un bilan alarmant de l'année 2025. 68 057 entreprises sont entrées en procédure judiciaire l'année dernière, un record historique en hausse de 3,5% par rapport à 2024. À noter, car lorsqu'on parle de faillite comme de création d'entreprise, la nature de ces entreprises compte. 62,7 des entreprises qui ont fait faillite l'année dernière n'avaient pas de salariés. Mardi encore, Bosch a annoncé la fermeture de son usine Deezer dans la banlieue de Moulins, qui compte quelque 265 salariés. L'équipementier a aussi annoncé son intention de réduire ses surcapacités en développement et ingénierie, ce qui concerne une quarantaine de collaborateurs à Vénissieux dans le Rhône. Mardi toujours, Colurite, enseigne de supermarché belge implantée en France depuis 1996, rien que ça, a annoncé supprimer plus de 700 emplois en France, dont environ 600 dans la région de Dole dans le Jura. Mardi, enfin, c'est un autre groupe qui a annoncé la suppression de 2400 postes en France. Il ne s'agit pas d'industrie, mais d'informatique, puisque c'est de Capgemini dont on parle là. 2400 postes, cela représente près de 7% des 35 000 qui constituent l'entreprise en France, sur un total de 335 000 dans le monde. En cause, entre autres, selon le discours officiel, les mutations engendrées par l'intelligence artificielle, IA, auxquelles les salariés concernés par la suppression de postes peuvent être formés s'ils le souhaitent. IA, qui inquiète donc les syndicats. Invitée samedi dernier sur France Inter, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, rappelait qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, seulement des choix d'organisation. Un sujet que nous abordions il y a quelques mois à ce micro avec le chercheur Juan Sebastian Carbonel. Mais il faut bien le dire et il faut le constater, c'est essentiellement l'actualité internationale qui a retenu l'attention. Tous les regards étaient donc tournés vers Davos et parmi les déclarations, une en particulier nous a intéressés à Entendez-vous l'écho, celle qui a consisté à mettre en place une sorte de chantage à la dette américaine, une forme de sanction économique mise sur la table par des fonds privés, largement commentée dans les médias américains, mais aussi par Thierry Breton samedi dernier. Et c'est donc le sujet de notre question d'actualité du jour.
For the first time in history, Greenland just made the US stock market red.
Stocks fell 2% yesterday because Europe
is punching back.
And the name of this concept right now is Sell America. This is the Sell America trade.
The president's tough talk with Europe.
Les déclarations musclées du président à l'égard de l'Europe ébranlent Wall Street. C'est le phénomène Sell America. Le Dow Jones a perdu plus de 8170 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont tous deux effacé leurs gains et clôturé en baisse de plus de 2%. C'est la pire journée de l'année à Wall Street. Et cette agitation des marchés se répercute sur votre portefeuille, le dollar ayant atteint son plus bas niveau depuis des semaines.
Nous sommes actuellement en train d'assister à la cession de tous nos actifs, des actions au dollar en passant par les bons du Trésor, principalement de la part des investisseurs étrangers. Cette vente massive est notamment due aux menaces tarifaires du président Trump à l'encontre de ses alliés européens, alors qu'il continue de faire pression pour que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, éventuellement par la force. Tout dépendra de la façon dont les investisseurs continueront de réagir à cette nouvelle vague de volatilité liée à ce qu'on appelle désormais le « Sell America Trade ».
Ils n'écoutent que les marchés. Et les marchés, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, ils ont dit « Oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Groenland ? Oulala, qu'est-ce que c'est que ces droits de douane supplémentaires ?» Et le Dow Jones a commencé à s'effondrer. Le soir même où il y a « Ah ben finalement, nous avons trouvé un accord », encore une fois, un accord qui est tombé du ciel, parce que ni l'un ni l'autre n'ont la légitimité pour négocier cet accord. Eh bien, à l'instant même, tenez-vous bien, le Dow Jones prend 6%. C'est énorme, eh bien. Donc voilà, c'est ça qui fait plier Donald Trump. Alors pour nous, Européens, continuons à parler, laissez faire, mais avançons ensemble.
Il est impossible de se diversifier en dehors des États-Unis. Dans toute allocation importante d'actifs, on peut envisager une surpondération ou une sous-pondération. Mais se diversifier en dehors des États-Unis et aussi du dollar est un pari assez dangereux.
Cela ressemble presque à une anecdote de type « Le saviez-vous, les îles Caïmans sont l'endroit au monde qui détient le plus de titres de dette américaine ». Or, derrière ce fait se cache une tendance lourde. Un tiers de la dette publique américaine est désormais détenue par des acteurs étrangers, contre 5% en 1970 et 23% en 1995. Alors, quand certains de ces acteurs décident de vendre ces titres et de mettre ainsi la pression sur les marchés pour répondre aux menaces de Donald Trump vis-à-vis du Groenland, la question se pose : la dette est-elle un moyen de pression crédible et efficace ? Bref, une sanction économique qui pourrait faire effet. Pour répondre à cette question, deux invités sont avec nous en studio et je les en remercie. Régis Bismuth, vous êtes professeur à l'école de droit de Sciences Po. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour et merci de votre invitation.
Également avec nous, Shahin Vallée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en économie au Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, le conseil allemand pour les affaires étrangères. Alors Régis Bismuth, dans quelle mesure s'agit-il avec ce fameux Sell America qui a été beaucoup commenté et puis qui a suscité pas mal de remous tout de même à Davos ? Dans quelle mesure s'agit-il d'une innovation en termes de sanctions économiques ? Est-ce pourtant la première fois qu'on en a entendu parler ?
Alors, il est délicat de parler de sanctions économiques dans le sens de sanctions européennes, de mesures restrictives européennes, comme il y a pu en avoir, par exemple, vis-à-vis de la Russie. Dans le cadre des sanctions contre la Russie, les opérateurs économiques européens, les institutions financières, ont l'interdiction de réaliser certains types de transactions, d'opérations. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à immobiliser les actifs de la Banque centrale de Russie. Dans le contexte Sell America, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Il s'agit d'initiatives privées de la part d'opérateurs de marché, initiatives atomisées qui, semble-t-il, jusqu'à présent, sont plutôt limitées à certains acteurs, certains fonds plutôt nord-européens. Il y a un fonds suédois, notamment, qui a annoncé avoir vendu 8 milliards de titres de dette américaine de ce point de vue-là. Et à côté de ça, on a le Sell America Trade. Et là, il s'agit manifestement d'un mouvement un petit peu plus large d'opérateurs économiques qui souhaitent se désengager progressivement du marché américain, mais pas simplement la dette souveraine,
de
mais aussi les actifs
en termes d'investissement.
De manière plus générale.
Shahin Vallée, on le disait à l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'une stratégie européenne. Ce sont des acteurs privés, effectivement, qui ont exprimé cette volonté-là. L'appel vient notamment de Georges Saravelos, chef stratégiste à la Deutsche Bank. Il a pris forme, on le disait à l'instant, au sein de plusieurs fonds de pension, mais qui ne sont pas non plus pléthores. Il y en a essentiellement des Suédois et des Danois. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ne peut absolument pas parler de stratégie européenne ? Et est-ce une surprise en soi que des acteurs privés se saisissent de ces questions-là qui, jusqu'ici, justement, faisaient l'objet d'une stratégie très concertée et très politique ?
Alors, pour le moment, c'est tout à fait juste de dire qu'il s'agit de réactions atomisées d'agents privés. On pourrait envisager une stratégie publique qui mènerait à ce genre de décision. Par exemple, on pourrait prendre des mesures réglementaires pour forcer les fonds d'investissement européens à réduire leur encours de dette américaine ou à préférer des investissements européens. Donc il y a toute une série de mesures réglementaires qu'on pourrait prendre qui impliqueraient des actions législatives au niveau européen. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais aujourd'hui, personne n'a parlé de ça pour le moment. Donc c'est possible, mais c'est pas le cas. Il y a un deuxième levier public potentiel, c'est les actifs qui sont détenus par des autorités publiques, en l'occurrence, en Europe, les banques centrales, les banques centrales de l'eurosystème. Donc ça, ça pourrait être un levier possible. Par ailleurs, quand on regarde les données historiques sur la détention de dette américaine par les banques centrales, en Europe et dans le reste du monde, on observe de manière tendancielle une baisse assez rapide des détentions de titres américains, notamment depuis la crise financière mondiale, et qui s'est accélérée en réalité depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc on observe quand même des autorités publiques prendre ce genre d'initiative. Est-ce qu'elles le font
pour faire pression
sur l'administration américaine sur un sujet ou sur un autre, ou est-ce qu'elles le font parce qu'elles ont le sentiment que le pouvoir en place et la politique économique en place va mener à une dégradation et du dollar et des titres souverains américains? C'est toute une question. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette deuxième hypothèse pour le moment, qui mène d'ailleurs à des diversifications très intéressantes vers des titres de dette européenne, mais aussi et surtout, et on l'a vu notamment cette semaine, vers les métaux précieux et notamment vers l'or.
Et du reste, c'est ainsi qu'ont justifié leur décision les patrons, on va dire, des fonds suédois et danois. Ils ont plutôt dit qu'ils n'avaient plus trop confiance dans l'économie américaine en raison de toute l'instabilité. Ça n'a jamais été affiché comme une décision, on va dire, politique et engagée de leur part. Régis Bismuth, vous souhaitiez réagir.
Oui, quant à au désinvestissement peut-être progressif de certains opérateurs, la Chine, depuis le début des années 2010, a réduit son exposition au titre de dette américaine de manière finalement assez significative. Même si, alors vous avez parlé tout à l'heure des îles Caïmans, ce qui compte par rapport à la localisation des détenteurs, on retient le critère du dépositaire, du custodian, alors que la nationalité du dépositaire n'est pas nécessairement la nationalité du détenteur de titres de dette américaine. Donc c'est pour ça que la Chine a peut-être aussi des titres de dette américaine, mais détenus ailleurs.
Et ceux qui connaissent bien ces données, donc les données publiques de détention de bons du Trésor, sont souvent assez mauvaises. Et donc en fait, la Chine, par exemple, détient beaucoup de ces titres en Europe. Et donc beaucoup des titres chinois sont détenus à Luxembourg et en Belgique chez Clearstream. Et donc parfois, on surestime la détention européenne de ces titres.
Oui, et du reste, chez Aline Vallée, on pourrait se dire, si la Chine a commencé depuis plus d'une dizaine d'années à se désengager progressivement, ainsi que d'autres acteurs financiers, pour autant, on n'a pas vu de conséquences massives du côté des États-Unis, ou est-ce le cas? Est-ce qu'il y a déjà eu des conséquences économiques?
Moi je considère qu'il y a déjà aujourd'hui des conséquences visibles. Les taux longs américains sont à des niveaux très élevés par rapport aux taux bas, aux taux de la réserve fédérale. C'est-à-dire qu'on a une courbe des taux très très pontifiée. Donc ça signifie que les acteurs, les agents économiques qui sont des détenteurs historiques de dette en détiennent plutôt moins. Et aujourd'hui le dollar faiblit. Et ce qui est très intéressant depuis l'élection de Trump, beaucoup d'agents économiques s'attendaient à ce que les tarifs douaniers mènent à une augmentation de la valeur extérieure du dollar. Il s'est passé précisément l'inverse. Donc ça signifie bien que ces désengagements ou ce risque que les acteurs perçoivent sur l'économie américaine a augmenté. Et enfin, je pense que je reviens sur ce point sur l'or, cette envolée mais vraiment brutale des prix de l'or ces six derniers mois,
et
encore un signe de désengagement du dollar.
Régis Bismuth, je vais vous demander aux spécialistes du droit économique international que vous êtes, peut-être de se lancer dans un exercice d'anticipation, peut-être de science-fiction, vous me le direz, mais elle est intéressante tout de même, cette idée que ce soit des acteurs privés aussi qui décident ou non d'avoir finalement un impact et parfois conséquent sur l'économie américaine. Est-ce que ils pourraient décider unilatéralement, c'est-à-dire sans l'accord des puissances européennes, mais en tant qu'acteurs privés avec un poids économique, de se lancer eux dans une forme de sanction économique sans que personne n'y puisse rien? On a bien compris que les acteurs européens pourraient les inciter à le faire, comme avec le cas russe. Est-ce que l'inverse serait vrai aussi? Est-ce que l'inverse serait possible?
Alors, une coordination formalisée des opérateurs privés pour se désengager des titres de dette, alors sur le papier, bien évidemment, tout est possible.
Du point de vue du droit, c'est possible.
Du point de vue du droit, tout est possible. D'ailleurs, ça serait particulièrement délicat pour l'administration européenne d'analyser cela comme un acte hostile attribuable aux États membres de l'Union et à l'Union. Cependant, alors là, je suis pas économiste et sans doute Shaheen Vallée aura plus de choses à dire de ce point de vue-là. Je pense que sur les marchés, ce seront plus des phénomènes de mimétisme qui vont se manifester plutôt que l'existence d'une coordination généralisée au sein des opérateurs. Ceci étant, l'épisode que vous avez rappelé de l'analyse de la Deutsche Bank Sarah Vellos est intéressant parce que je pense qu'il montre aussi d'une certaine façon un peu la frilosité américaine à ce propos. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, est intervenu, s'est plaint de l'analyse qui avait été faite.
Le PDG de la Deutsche Bank
a décidé de se dissocier publiquement de l'analyse faite par son opérateur. Donc déjà, le fait d'intervenir là-dessus montre une forme de frilosité. Et puis, ce que nous dit finalement cet analyste ici, ce n'est rien d'autre que de vouloir intégrer dans le profil des risques de la banque pour les investisseurs, des risques géopolitiques, des risques aussi plus récents relatifs à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, des risques économiques par rapport aux droits de douane, etc., etc. Donc finalement, une décision qui voudrait être économiquement fondée et rationnelle.
Et puis tout de même, Shaheen Vallée, on entendait Thierry Breton au tout début de cette émission qui estimait que c'est parce que justement il y a eu cette réaction des marchés que Donald Trump avait reculé quelques jours après le Liberation Day, notamment sur les droits de douane, qui était revenu sur certaines de ses positions parce que le marché l'avait sanctionné. Est-ce que de votre point de vue, Shaheen Vallée, on peut dire que désormais on fait plus confiance au marché en termes d'efficacité des sanctions économiques qu'à la puissance publique quelque part?
Oui, j'utiliserai pas le terme de sanctions économiques pour les raisons qui ont été évoquées un peu plus tôt, mais je pense qu'en effet, le pouvoir de marché est aujourd'hui peut-être le seul pouvoir capable de discipliner l'administration américaine. On l'a vu au moment des tarifs douaniers sur Liberation Day, on le voit encore aujourd'hui, pour une raison assez simple, qui est qu'aujourd'hui, l'économie américaine est très dépendante de capital extérieur pour financer son déficit courant et son déficit budgétaire. Et donc, le moindre choc de confiance internationale et nationale sur le dollar ou les taux d'intérêt américains peut avoir des effets très importants et produire des réactions en chaîne très importantes. Donc, je parlerai pas de mécanismes coordonnés de la part d'agents privés, mais en fait, le marché est un instrument de coordination, produit des effets mimétiques et produit des professions autoréalisatrices.
Régis Bismuth, sur
cette question. Discipline de marché, finalement, on a pu le voir déjà dans le passé au moment de la crise de la dette souveraine européenne avec le phénomène des agences de notation qui constitue une discipline de marché. Et ce qui est intéressant, c'était dans la réaction de Scott Bessent par rapport à l'analyse qui avait été faite par l'analyse de la Deutsche Bank. Il a dit c'est fake news, oui. Alors que l'analyse de la Deutsche Bank, c'est une opinion. Et ce qui est intéressant, c'est dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine en matière de liberté d'expression, la Cour suprême nous dit il n'y a rien de tel qu'une fausse opinion. Une fausse opinion n'existe pas. Alors un faux fait qui est rapporté, oui, une fausse opinion. Donc déjà, je trouvais ça que dans la réaction, c'était particulièrement intéressant par rapport à la conception de distinction entre fait et opinion traditionnellement qu'on fait dans le domaine juridique, oui, et dans la liberté d'expression.
Il a d'ailleurs bien fustigé le Financial Times, hein, qui était censé, oui, être à la tête de cette...
Mais cette réaction signale une forme de fébrilité. Et une fébrilité qui est due notamment au fait que l'économie américaine a un déficit colossal à financer et que Scott Bessent, qui est censé en être le garant, regarde ça de très près.
Et surtout quand on connaît Shaheen Vallée, l'état des relations aussi entre le gouvernement et la Banque centrale américaine, la Fed, qui de fait depuis plusieurs années, c'est ce que je disais en introduction, n'achète plus ces titres obligataires-là, n'est plus l'acteur principal, ce qui assure une forme de sécurité, si on peut le dire ainsi. Il y a une autre question qui m'intéressait, Régis Bismuth, c'est qu'on pourrait dire qu'avec cette idée d'une forme de chantage à la dette, ou en tout cas de mettre en avant les vulnérabilités de chacun à partir du moment où la dette est détenue par des non-résidents, on pourrait se dire qu'on ouvre une boîte de Pandore. Aucun pays au monde n'a une dette détenue à 100% par sa banque centrale ou par des acteurs résidents. C'est ce que je disais aussi, tout le monde se tient un peu par la barbichette. À partir du moment où on met cette arme-là sur la table, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade où tout le monde va faire pression sur tout le monde parce que les dettes se sont largement internationalisées?
C'est le risque en effet. Alors après, il y a des États qui sont un peu plus exposés que d'autres. Le Japon l'est un peu moins, par exemple,
puisque sa dette,
l'exemple canonique. La France, une très large partie de sa dette est aussi détenue par des opérateurs étrangers.
Plus de 60%,
ouais. Oui. J'avais 54%, mais...
Peut-être que c'est un peu... mais...
mais on est dans cet ordre-là. Ouais, ouais.
Et si c'est près du double. Les États-Unis, c'est que 30%.
Oui. Ouais.
Et si on rapporte le Sell America Trade aussi à la France, ne serait-ce par exemple, alors je me déplace un petit peu, de la dette sur les actions, alors il me semble que la moitié du CAC 40 est détenue à l'étranger et une certaine, et la moitié de cette moitié aux États-Unis. Donc on a aussi une vulnérabilité de ce point de vue-là. Donc, et puis il faut avoir à l'idée aussi que la dette souveraine américaine, c'est un instrument de référence sur les marchés. L'actif sans risque, alors d'ailleurs c'est amusant de constater qu'il y a justement ce phénomène de déplacement de la dette américaine vers l'or, un autre actif réputé sans risque. Et d'une certaine façon, les marchés sont aussi une forme de château de cartes qui repose dans une large mesure sur cette dette américaine. Beaucoup de choses dépendent de cette dette américaine. Donc vouloir souffler dessus, c'est prendre le risque aussi de se faire effondrer ce château de cartes. Donc là, il y a quand même une petite fragilité.
Une forme de vulnérabilité, donc, Shaheen Vallée, est-ce pour autant la première fois, au-delà de ce cas américain, de ces tensions commerciales aussi, puis ces tensions géopolitiques de façon générale, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'effectivement, des détenteurs de titres obligataires d'un État s'en servent pour faire pression en termes d'inflexion de la politique économique menée, par exemple, en dehors de 4 sanctions spécifiques?
Oui, absolument. J'ai envie de dire que c'est plutôt l'État normal du monde. Hein. C'est-à-dire qu'on vit toujours sous la contrainte d'un financement extérieur ou intérieur et que les acteurs qui sont des créditeurs peuvent dicter très souvent leur politique. Donc, pour moi, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Ce qu'il y a peut-être de plus nouveau et ce qui dit quelque chose de plus large sur l'organisation du système monétaire et financier international, c'est que c'est rare que ceci arrive à l'émetteur de la devise de réserve internationale de référence. En général, ce sont plutôt les monnaies les plus faibles et les monnaies satellites qui sont sujettes à ce genre de pression. Le fait que ça arrive au dollar aujourd'hui, c'est ça le fait nouveau. Et fait nouveau qui pourrait provoquer un changement assez brutal, c'est-à-dire un changement de paradigme dans lequel, en fait, le dollar perdrait son rôle central et pivot dans le système monétaire international au profit d'autres devises, potentiellement l'euro, potentiellement le renminbi chinois. Et les États-Unis sont très inquiets de ça, parce qu'ils ont vécu et surfé sur ce qu'on a appelé le privilège exorbitant pendant très longtemps, et ils essaient de préserver absolument le plus longtemps possible ce privilège. Le dernier instrument qu'ils ont créé pour essayer de prolonger et d'étendre ce privilège, c'est l'émission de stablecoin, dont l'émission s'est accélérée assez violemment depuis l'élection de Trump, avec comme idée qu'en ouvrant l'écosystème des cryptos devises au reste du monde à travers ces stablecoins, on créera une demande nouvelle pour des actifs libellés en dollars, notamment des bons du Trésor. Et donc du coup, les vendeurs dont on a parlé de bons du Trésor américains seront peut-être remplacés par d'autres par le biais des stablecoins. Donc on utilise l'écosystème des crypto-assets pour essayer de préserver le privilège exorbitant du dollar, mais il n'est pas certain que ceci fonctionne.
Stablecoin, qui sont ces fameux jetons stables, pour le traduire en français, c'est-à-dire qui reprennent un peu ce concept des bitcoins, mais qui sont justement adossés au dollar ou à l'euro, mais essentiellement au dollar, ce qui leur assure cette forme de stabilité. On en parlait la semaine dernière, ici même dans cette émission. Régis Bismuth, je repose la question qui était celle de départ, finalement. On a bien compris qu'il y a un effet mécanique avec la réaction des marchés, mais est-ce que détenir des titres de dette d'un État accorde une forme de droit spécifique ? Qu'est-ce que l'histoire nous raconte aussi en termes de droits que s'octroient aussi peut-être les détenteurs non résidents des dettes d'un pays donné ?
L'histoire du droit international et des crises de dette souveraine sur les 130-140 dernières années nous offre de nombreux exemples nous montrant que justement une contrainte peut s'exercer de la part des créanciers sur l'État. Alors, je vais pas revenir aux origines, mais on a la crise, enfin pas la crise, mais on a la pratique de la diplomatie de la canonnière finalement à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle où il s'agissait de réaliser des blocus sur certains États d'Amérique latine pour les forcer à régler leurs dettes dues aux résidents des États qui organisaient ces blocus, notamment.
Ils ont recours à la force, c'était donc justifié.
Donc recours à la force. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas, la crise vénézuélienne de 1902-1903, qui a constitué un tournant, puisque à la suite de cette crise, il y a eu un arbitrage accordant un paiement préférentiel au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à l'Italie, ce qui a conduit finalement un juriste argentin, Drago, et un militaire américain porteur qui a été aussi ambassadeur des États-Unis en France à signer cette convention Drago-Porter qui constitue la première interdiction en droit international de recours à la force pour le non-paiement des dettes contractuelles. D'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que vous êtes dans une série sur la dette. C'est à peu près à la même période que la contrainte par corps est interdite en France. Alors après, avec 30 ans à peu près de différence, l'idée que de toutes les façons, un État ne paye pas, une personne ne paye pas, on ne va pas la mettre en prison, on ne va pas lui envoyer des canons.
Il y a des garde-fous qui sont instaurés, une forme de régulation.
Après, les choses ont évolué dans l'histoire. Ce qu'on a vu à la fin 19e, début 20e, c'était une pression sur la captation des recettes fiscales, plutôt, avec les exemples, par exemple, égyptiens, grecs ou de l'Empire ottoman, qu'on retrouve aussi d'une certaine façon dans la pratique aujourd'hui de la Chine, qui, en tant que prêteur bilatéral, va chercher à avoir des garanties sur certaines recettes qui vont permettre de rembourser les emprunts. Et c'est ce que fait, d'une certaine façon, en dehors du contexte de la dette, Donald Trump avec le Venezuela, en allant se servir directement dans les pétroliers vénézuéliens. Et après, on a des exemples plus récents. Et là, on passe plus du canon robinet, si je peux dire, à savoir les exemples de la dette grecque et d'autres exemples de restructuration, où, pour le coup, il s'agit pour les créanciers et les nouveaux créanciers antérieurs, sur lesquels il risque d'avoir un défaut, et les nouveaux créanciers, d'exercer une pression pour obtenir des modifications des politiques économiques nationales. Si vous ne payez pas, il y a une conditionnalité qui s'applique. Si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions, vous n'aurez pas la prochaine tranche qui va vous permettre de tenir 6 mois. Donc là, on a aussi une pression qui s'exerce de cette façon-là, qui était particulièrement forte.
Chahine Vallée, pour conclure très rapidement, on peut dire que finalement, cette idée de se tenir par la barbichette, de détenir la dette d'un État qui n'est pas le nôtre, c'est nécessairement un rapport de force. La dette est un rapport de force.
L'argent est un rapport de force, oui, toujours.
Merci beaucoup à tous les deux, Régis Bismuth et Chahine Vallée, d'avoir été avec nous dans Entendez-vous l'écho. Chahine Vallée, je rappelle que vous êtes chercheur en économie au Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Et Régis Bismuth, vous êtes professeur à l'École des droits de Sciences Po. Et tout de suite, place à l'histoire de notre économie, parce qu'elle nous raconte d'où on vient et surtout où on va. Retour sur la façon dont le crédit à la consommation s'est structuré en France dans les années 50 et comment tout cela a changé la donne.
France Culture, Entendez-vous l'écho. Aliétovine.
Nous pouvons de plus en plus faire de choses différentes. De plus en plus de choses possibles s'offrent à nous. Tout devient possible. Mais, tout ne devient pas possible à la fois. Il faut quand même que parmi toutes ces choses possibles, nous choisissions, d'abord parce que nous ne sommes pas indéfiniment riches et que si nous achetons par exemple un appareil de cinéma, ben nous ne pouvons pas en même temps acheter des automobiles, des disques.
Que le crédit à la consommation en donne l'illusion.
Oui, bien entendu, mais là, ça illustre bien le problème. Le crédit à la consommation ne fait qu'accentuer notre désir de consommer beaucoup, mais quand même, il ne peut pas nous permettre de tout avoir à la fois. Alors, il faut choisir parmi tous ces possibles. Et c'est ça, me semble-t-il, le problème le plus dramatique de l'homme d'aujourd'hui.
Le problème le plus dramatique de l'homme d'aujourd'hui, c'est le crédit à la consommation qui ouvre un monde de possibilités à une époque où l'offre devient elle-même infinie. En 1965, Jacques Rueff posait l'enjeu fondamental de ce crédit accordé aux ménages qui font face à la société de consommation. Or, ce crédit, tel qu'il se met en place dans les années 50, est d'abord et avant tout un marché où puissances publiques, sociétés financières, commerçants, industriels et in fine consommateurs se rencontrent, s'opposent parfois, négocient souvent en fonction de leurs intérêts dans tous les sens du terme. Le crédit se fait ainsi marché, un marché qui part à la conquête de parts toujours plus grandes, à grand renfort notamment de marketing et dont les fondements sont toujours présents aujourd'hui. La promesse d'avoir accès à tous les possibles se heurte à la réalité des moyens des individus et aujourd'hui les crédits à la consommation représentent 43% de la dette des ménages surendettés. Alors comment ce marché s'est-il construit? Au nom de quoi a-t-on tenté de lui imposer certains garde-fous? Et dans quelle mesure peut-on parler d'une spécificité française de ce marché du crédit à la consommation? Au milieu des années 2000, notre invité du jour est parti aux origines de ce phénomène et en reste aujourd'hui une fine observatrice, Hélène Ducouan. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes sociologue de la consommation et enseignante-chercheuse à l'Université Gustave Eiffel à Paris. Un mot tout d'abord sur la réalité du crédit à la consommation du point de vue de la sociologue que vous êtes. Vous dites dans vos travaux qu'il s'agit là d'une activité parfaitement autonomisée aujourd'hui. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, j'ai fait ma thèse en effet sur le développement du crédit à la consommation en France depuis les années 50. Et quand j'évoque l'idée d'une activité complètement autonomisée, je veux dire par là qu'elle est qu'elle produit ses profits pour elle-même et voilà qu'elle n'est plus seulement un adjuvant, une pratique de commerçant un petit peu bricolé pour augmenter les ventes. Le profit ne vient pas que des ventes des biens matériels, mais aussi en lui-même des opérations de crédit.
Est-ce que avant cela, avant ce tournant des années 50 sur lequel nous allons revenir hein, tout au long de cette émission, est-ce qu'avant cela, il faut comprendre que le crédit à la consommation, même le crédit de façon plus générale, était avant tout histoire de relations sociales, histoire beaucoup plus humaine ? Est-ce qu'il y a un contraste à ce point, Hélène Ducourant ?
Alors je laisse de côté le crédit auto hein, qui a son histoire indépendante, mais en tout cas les pratiques de crédit telles qu'elles se font dans les années au début des années 50 ou avant, elles sont surtout prises en charge de façon informelle par des commerçants qui distinguent pas le prix du crédit du prix de l'objet. Il y a beaucoup d'initiatives un peu grises, par exemple l'Union de commerçants, etc., hein, qui formalisent. Il y a des magasins qui formalisent beaucoup les activités de crédit, mais globalement ça reste des pratiques d'électriciens, de quincaillers qui vendent des réfrigérateurs en prenant sur eux le paiement plusieurs fois, on peut dire ça comme ça.
Et ce qu'on comprend à travers les lignes, Hélène Ducourant, c'est que de fait ces relations-là étaient beaucoup plus basées sur la confiance, sur la connaissance de l'individu en lui-même. C'est vraiment le crédit synonyme de confiance, littéralement.
Alors, à partir des années 50, en fait, ce que vont inventer les établissements de crédit, c'est bien le fait de faire du crédit à de parfaits inconnus. Avec des règles précises et de façon à une échelle industrielle. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté qui va arriver dans les années 50, au milieu des années 50, avec des établissements qui existent encore aujourd'hui.
Alors, on va arriver à ce tournant. Avant ça, une dernière question, Hélène Ducourant. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ce mouvement, finalement, du crédit à la consommation, qui passe de cette relation basée sur la réputation à ce système plus froid, plus impersonnel, où on prête à des inconnus, vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut parler d'une spécificité française du système de prêt à la consommation? Je vous pose la question parce qu'on a vu au Brésil que c'était très lié à la politique de Lula en 2003. On a vu la semaine dernière qu'aux États-Unis, il y avait une vision très paternaliste, presque de protéger le consommateur contre lui-même. Est-ce qu'il y a une spécificité française en la matière?
Ce qui est sûr, c'est que les histoires de crédit, elles sont toujours très nationales. Et même quand on a des entreprises, comme les entreprises françaises qui peuvent être très développées à l'étranger, elles doivent toujours composer avec un cadre tout à fait national. Les autorités publiques, elles portent en effet des conceptions hein, de à quoi ce que serait un bon crédit et ce que serait peut-être un mauvais crédit. Et puis la société, avoir une société plus ou moins salariale, un état-providence plus ou moins développé, ça a de fortes incidences sur l'état de recours au crédit à la consommation, parce que le crédit à la consommation, en fait, c'est tout sauf le crédit immobilier. Donc ça va être les prêts étudiants, les façons de financer la santé, ça peut être plein de choses, pas seulement la voiture ou le réfrigérateur.
Alors, qui œuvre à la création de ce marché, à rendre marchand ce qui se déroulait jusqu'ici de façon plutôt sociale ou plutôt informelle ? Tout commence, nous l'avons dit, dans les années 50.
C'est presque à l'unanimité, 140 voix et seulement 2 abstentions, que les conclusions de M. Marius Allègre sur le crédit à la consommation ont été adoptées par le Conseil économique. Je ne reviendrai point sur la définition du crédit à la consommation, mais c'est sous un triple aspect économique, sociale et monétaire, que le Conseil a étudié les ventes à tempérament qui constituent la formule la plus répandue du crédit à la consommation. Et ce crédit peut être, suivant l'emploi, la pire ou la meilleure des choses. Si la technique du crédit à la consommation présente un intérêt social particulier, chaque fois qu'elle permet d'améliorer le standing de vie, le Conseil estime nécessaire qu'une législation protège par des garanties l'acheteur et le vendeur. En effet, l'acheteur devrait connaître clairement le coût réel de l'opération à laquelle il s'engage, en même temps que son taux nominal, pour être mis en garde contre ceux qui dissimulent le coût du crédit en le reportant, réellement ou artificiellement, sur les prix d'achat au comptant des mêmes objets. De même, le vendeur devrait être protégé contre la mauvaise foi caractérisée par la vente d'un objet non payé.
La mauvaise foi caractérisée par la vente d'un objet non payé. On l'entend dans cette archive de mars 1954. Le crédit à la consommation interroge d'un point de vue certes économique, mais aussi social. C'était très présent aussi dans cette archive. On sent que la puissance publique est là dès le départ, dès le tout début de ces années 50, Hélène Ducourant. Comment cet objet qu'est le crédit à la consommation s'instaure dans les débats? Que nous raconte cette archive finalement sur la perception qu'on a du crédit à la consommation dans ce tout début des années 50?
Cette archive, elle témoigne de plein de choses, je trouve, à la fois du rapport de classe que peuvent avoir les personnes politiques ou les personnes qui sont en charge des dossiers, qui considèrent ce crédit comme quelque chose qui les concerne pas et qu'ils ont du mal à percevoir, parce qu'on est peut-être dans cette idée de « on achète ce qu'on peut s'offrir ». Et donc, il y a quelque chose comme ça. En même temps, on voit bien qu'il y a un tournant à cette époque d'Allègre qui est en train de se dire que il y a des entrepreneurs qui sont en train d'inventer des solutions. Il y a une industrie française qui a des choses à vendre. Il y a des pratiques qui existent. Et on a bien vu qui posent problème parce qu'on ne sait pas quel est le coût. On ne sait pas ce qu'on paye quand on achète un réfrigérateur, une télévision, etc. Et du coup, la puissance publique, elle est quand même là pour commencer à encadrer, contrôler, laisser grossir sans trop laisser grossir ces établissements de crédit qui vont commencer là dans les années 50.
Mais qu'est-ce qui intéresse la puissance publique? Comment on pourrait qualifier le rôle de l'État? Est-ce que c'est protéger les consommateurs effectivement dans ce monde un peu flou qui est en train de se mettre en place, ou au contraire c'est une forme d'opportunisme, en tout cas de vision d'une opportunité pour l'industrie française où l'État est quand même historiquement très engagé aussi dans ce rapport à l'industrie?
En fait, il y aura les deux en même temps. Il y a, est-ce que vraiment les opportunités, enfin l'argent disponible, il doit servir à ça, à des crédits? Est-ce qu'il n'y a pas des investissements qui seraient plus légitimes? Un peu plus tard, la question de l'inflation aussi et du rôle du crédit à la conso dans l'inflation. Et puis les établissements de crédit n'auront de cesse de dire que c'est tout à fait mineur et qu'il faut laisser les Français acquérir des biens dont ils ont besoin. Et voilà, et en même temps, il y a plein d'enjeux moraux aussi sur qu'est-ce qu'il est légitime d'acheter à crédit? Est-ce que la télé et le four, c'est la même chose? Et tout ça, ça n'aura de cesse de se rejouer encore aujourd'hui. On voit bien que la consommation des ménages populaires, elle est vraiment surveillée, contrôlée. Chacun a un avis sur ce que devraient faire les moins riches d'entre nous avec leur argent.
Et du reste, quand on écoute effectivement les archives sonores qui ont lien, on va dire, avec le crédit à la consommation, le terme d'utile et de nécessaire revient énormément. Donc effectivement, il y a vraiment cette notion qui transparaît à travers les décennies. Et puis vous l'avez mentionné, Hélène Ducourant, il y a cet acteur, parce que là on a vu l'acteur plutôt étatique, il y a un acteur majeur dont on ne peut pas ne pas parler, ce sont les établissements de crédit, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que vous dites dans vos travaux d'ailleurs, que les banques au départ ne sont pas tellement intéressées par ce crédit à la consommation. Ces sociétés financières-là, que sont les établissements de crédit, vont se spécialiser dans l'octroi donc de ce crédit à la consommation. Et là encore, tout se cristallise au début des années 50. C'est ce que expliquait M. Kraft, alors directeur général de CTLM.
C'est en effet en 1953 que tous les grands établissements de crédit se sont intéressés officiellement pour la première fois, sur une grande échelle, au développement du crédit pour l'équipement ménager. Ils ont fondé à cette époque le CTLM, qui a provoqué une certaine animation dans ce domaine du crédit, et toute une série d'entreprises, soit nouvelles, soit anciennes, s'y sont intéressées activement. C'est un phénomène assez curieux de constater que le crédit est demandé surtout pour certains appareils bon marché du type aspirateur, avec cette caractéristique que le client qui achète à crédit se porte vers l'appareil de meilleure qualité, grâce au crédit.
Je crois qu'on ne peut que souhaiter que le crédit pour l'équipement ménager se développe, car c'est vraiment une source d'économie considérable.
On peut soutenir même, dans une certaine mesure, que l'appareil se paye lui-même mensuellement comme un fidèle serviteur par les économies qu'il procure, les services qu'il rend, le temps qu'il gagne, la fatigue qu'il épargne, et même certaines économies de substances, comme par exemple grâce à l'utilisation du froid.
Pour conclure, je voudrais vous demander, Monsieur Kraft, si vous pensez que le crédit ménager va prendre suffisamment d'extension pour permettre une amélioration sensible du pouvoir d'achat.
L'exemple des pays étrangers le montre d'une manière surabondante. Le crédit est le moyen de faire accéder les classes modestes aux biens d'équipement qui, jusqu'à présent, étaient réservés à ceux qui pouvaient payer comptant.
Le directeur général de CTLM pour compagnie pour le financement des équipements électroménagers. Tout est dit, finalement, dans cet acronyme. C'était en mai 1954. Alors, Hélène Ducouron, on pourrait se dire qu'il y a deux façons d'entendre cette archive. On pourrait se dire que, d'une certaine manière, il y a une forme de sincérité avec cette notion de vouloir rendre service, d'épargner de la fatigue. Et puis, évidemment, une autre analyse qui consiste à dire qu'évidemment, c'est une forme de marketing ou en tout cas un discours intéressé puisque les sociétés de crédit ont tout intérêt à vendre leurs produits. Quelle serait votre analyse à vous, Hélène du courant? Est-ce que cette notion de rendre service peut être interprétée de façon relativement sincère?
Ben nous, les sociologues, on prend toujours au sérieux ce que les gens disent et puis on fait ce deuxième mouvement qui consiste à considérer les prises de position depuis les positions des acteurs. Et du coup, on n'a pas à choisir entre les deux. Et d'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup d'entretiens avec des dirigeants d'établissements de crédit ou des cadres supérieurs qui ont concouru vraiment à cette histoire française du crédit, très souvent, en fait, ils me disaient que voilà, ils ont vraiment le sentiment d'avoir été tellement utile, d'avoir tellement rendu service aux Français qui ont des problèmes d'argent, aux Français qui jamais n'auraient pu s'équiper sans eux. Et ils trouvaient très souvent qu'on les traitait assez injustement.
Voilà. Dans la réputation par rapport à la conception
voilà, donc
qu'ils
avaient. C'est assez schizophrénique pour les dirigeants d'établissements de crédit. Voilà.
Et puis par ailleurs, Hélène Ducouron, c'est ce que j'ai pu lire dans vos travaux, vous dites aussi qu'il faut se méfier, notamment en tant que sociologue, de l'idée selon laquelle ces sociétés de crédit seraient apparues pour répondre à une demande, parce qu'on se situait dans la société de consommation, que tout le monde voulait avoir accès à ces biens électroménagers, l'aspirateur, etc., qui ont été mentionnés. Mais vous dites qu'il faut se méfier de ça, que ce n'est pas nécessairement parce qu'il y avait demande qu'une offre s'est constituée.
Alors, moi, je suis sociologue de l'économie et des marchés, et c'est vrai que on essaie de ne pas naturaliser la demande. C'est-à-dire que des biens qui, a priori, ne rentrent pas dans votre budget, si les produits de crédit n'existent pas, vous ne les considérez pas comme des biens accessibles. Il ne faut pas réinventer l'histoire, c'est-à-dire a posteriori, avec ce qu'on connaît aujourd'hui des crédits, d'imaginer que les gens étaient en demande. En fait, ce qui se passe, c'est que l'industrie se met à produire des réfrigérateurs. J'insiste parce qu'en fait, c'était le premier. C'est vraiment ça qui a fait grossir l'industrie du crédit. Donc, on vend des frigos, on vend des fours, on vend des aspirateurs, on l'a dit, et des télévisions. Enfin, on les fabrique, pardon, on les vend et on se dit qu'on les vendrait mieux si tous ces commerçants arrêtaient de faire des petits crédits, des ristournes, etc. Et en fait, c'est là qu'il faut chercher l'origine du crédit à la consommation. Pas dans les banques qui n'étaient pas du tout intéressées à l'époque par les services aux particuliers, mais par ces acteurs assez différents qui se disaient qu'il y avait un truc à faire. Donc les distributeurs, les représentants des commerçants, les représentants des industries. Donc l'histoire de CTLM, c'est plutôt l'industrie de l'électroménager. L'histoire de Sofinco, c'est plutôt en lien avec les syndicats professionnels du mobilier, de l'ameublement. Et puis, il y aura la même chose dans d'autres secteurs.
Sofinco pour Société Financière Industrielle et Commerciale. Hélène Ducouron se pose tout de même la question. On comprend qu'il y a ce mécanisme qui se met en place qui passe par les commerçants, c'est-à-dire de proposer cette offre-là au moment de l'achat. Mais quel est l'intérêt des commerçants? Pourquoi acceptent-ils d'être cet intermédiaire-là?
Alors, il faut bien se dire que les 20 premières années, les boîtes de crédit, en fait, elles sont assez peu intéressés par le client final, en fait. Et c'est très curieux aujourd'hui de voir ça. Ce qui les intéresse, c'est de rendre service aux commerçants. En fait, le crédit, c'est un service associé à la vente. Et donc, il faut convaincre les commerçants et pas les clients finaux. Alors, quel est l'intérêt des commerçants? On l'a vu avec l'archive, c'est d'arrêter de faire des ristournes à leurs clients. C'est de pouvoir ne pas supporter eux-mêmes le coût du crédit, d'avancer en quelque sorte l'argent nécessaire. Et puis, justement, pour toute la chaîne intermédiaire, c'est d'avoir des commerçants qui vont les payer à l'heure et non plus en retard parce qu'ils attendent que leurs clients remboursent correctement leur crédit, etc. Donc l'idée, c'est de fluidifier la chaîne de paiement aussi.
France Culture.
Pourquoi dites-vous mon ami en parlant d'Éric? Je lui prête de l'argent, le vôtre d'ailleurs, à 20%. C'est un client, rien de plus.
Oui, mais vous pourriez les choisir un peu mieux.
Mon cher, je sais que le dicton veut qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne leur prête pas à 20%.
Entendez-vous l'écho, Aliette Ovine.
Le cave se rebiffe avec les dialogues de Michel Audiard, un film sorti en 1961. Alors Hélène Ducourt, on continue à tracer cette histoire aussi de l'accès au crédit à la consommation, histoire qui nous explique aussi le système dans lequel on se trouve actuellement. Entre 1949 et 1956, le nombre d'établissements de financement des ventes à crédit passe de 66 à 172. Ça peut dire donc qu'il y a une forme de succès aussi. Le modèle va évoluer dans les années 60. L'opération de crédit affecté réalisée en magasin n'est plus seulement recherchée pour le profit qu'elle génère par elle-même, mais aussi parce qu'elle est le moyen d'acquérir de nouveaux clients. Là, on passe à une autre dimension. Clients qui, lorsqu'ils se révèlent être bons payeurs, dignes de confiance, se voient proposer d'autres formes de crédit. Et en 1965 apparaît le crédit revolving, ou en bon français, crédit renouvelable. Alors Hélène Ducourant, de quoi s'agit-il exactement? Et en quoi est-ce un nouveau tournant, quelque part, dans la mise en marché du crédit?
Eh bien, déjà, ce crédit qui est fait depuis les années 50, qu'on appelle le crédit affecté, c'était déjà une sacrée innovation. Parce qu'on trouve un modèle économique pour faire des crédits de petits montants à de parfaits inconnus. Donc, c'était déjà une innovation. Ce sont des crédits de petits montants, mais des montants un petit peu conséquents, parce qu'à l'époque, les biens d'équipement, ça coûte un peu cher. Et on est au service des commerçants. Bon, il y a des commerçants, comme les Galeries Lafayette, enfin les grands magasins, puis aussi la vente par correspondance, La Redoute, Trois Suisses, etc., qui ont des problèmes un peu différents. Ils souhaitent avoir des services de crédit pour des clients qui, eux, sont réguliers et passent des commandes de petits montants. Et pour ces clients très réguliers, c'est pas comme ces TLM, vendre un truc tous les 3 ans, mais pour ces clients très réguliers de petits montants, on va développer le crédit revolving, crédit renouvelable. Ces TLM a recruté un Canadien qui sait très bien faire, etc. Et voilà, et donc on comprend bien l'idée, c'est d'aller toujours plus bas proposer donc un service. En fait, on va mettre à disposition une somme maximale, une réserve d'argent. Et l'idée, c'est de ne pas refaire un dossier de crédit à chaque nouvelle commande, par exemple, aux Trois Suisses ou à La Redoute ou dans les Galeries Lafayette.
Et puis, il faut dire aussi que le contexte a son importance. Je vous propose d'écouter Georges Pompidou en 1969 lors d'une conférence de presse restée dans les mémoires des salariés des sociétés des crédits et qui affirmait justement ses positions sur la question.
Je crois que dès qu'il y a un véritable encadrement du crédit, dès qu'il se fait sentir, et il se fait sentir depuis peu, et bien naturellement, il y a des gémissements. Et il peut y avoir quelques souffrances. Mais au total, et sous réserve que, dans les cas valables, le gouvernement, et en tout cas que les banques puissent intervenir intelligemment, au total, je crois que le maintien de l'encadrement du crédit est à l'heure actuelle essentiel si nous voulons éviter de culbuter purement et simplement dans l'inflation.
Voilà, on retrouve cet argument macroéconomique de l'inflation. Hélène Ducourant, on le voit à la toute fin des années 60, début années 70, sont plutôt une forme de régulation, d'encadrement du crédit. Ce contexte-là va jouer aussi dans une forme de course à l'innovation aussi en termes d'octroi de crédit à la consommation. Quels sont les effets finalement de ce retour de la puissance publique aussi sur cette question?
Alors quand on parle d'encadrement du crédit, il s'agit surtout d'encadrer la croissance des encours en fait. Donc on ne permet pas aux établissements de crédit de grossir autant qu'ils le voudraient. Et donc au sein des établissements de crédit, on commence à faire la chasse aux partenariats avec les commerçants qui rapportent pas beaucoup. Et parmi ces clients qui font beaucoup d'activités, donc beaucoup d'encours et à qui on gagne rien, bah justement, il y a notamment ces sociétés de vente par correspondance. Il s'agit de faire du petit crédit aux classes populaires de façon régulière, beaucoup de paperasse pour pas grand-chose. Et du coup, quand on peut pas trop augmenter les encours, ce que va faire CTLM, c'est de proposer de filialiser les partenariats les moins rentables. Donc ils vont prendre 15% dans le nouvel établissement qui va s'appeler Cofidis par exemple, et à charge pour les Trois Suisses de trouver les 85 autres pourcents, de façon à se concentrer sur ce qui rapporte beaucoup. Et ce qui rapporte beaucoup, ce serait de faire du prêt personnel aux anciens clients qu'on a capté une première fois par la vente d'une télé ou d'un frigo, etc. Donc se recentrer sur ce qui permet de gagner le plus d'argent.
On voit un peu la spirale qui se met en place, en tout cas le cercle vertueux du point de vue des sociétés de crédit à la consommation. Il y a ce contexte des années 70, mais les temps vont changer, Hélène Ducourant. Les débuts ont été assez compliqué. Je crois que tout le monde était relativement frileux quand ce crédit revolving a été mis en place. On prédisait pas un grand avenir finalement à cette nouvelle modalité. Et puis les années 80 vont arriver. Là, c'est encore un nouveau contexte. C'est celui de la libéralisation des marchés. À cette époque-là, les établissements de crédit ont les mains beaucoup plus libres, Hélène Ducouron. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences. Lesquelles précisément ?
Ben, par exemple, ce petit établissement Cofidis à qui on prédisait pas un super avenir, même Trois Suisses avait oublié de lui accorder des locaux à sa création. cette industrie, elle va être surprise par la grande liberté tout à coup qu'on lui accorde. Et puis, au départ, il s'agissait de faire du crédit dans le catalogue hein, pour aider les clients populaires de toute la France à payer les courses de rentrée de Noël, etc. Et en fait, ça va très très bien marcher. Ça va très très bien marcher. Alors, peut-être les plus âgés d'entre nous se souviendront de la carte 4 étoiles, qui était l'offre de Cofidis qui marchait très très bien. Et puis, chez Cofidis, on s'est dit, mais pourquoi on s'arrêterait là, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on proposerait un crédit qui ne serait que valable dans le catalogue ? Et en fait, ils vont développer un service qui va s'appeler Libre à vous. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, ça s'appelait comme ça très longtemps. Et en fait, l'idée, c'était de proposer ce crédit revolving, pas uniquement utilisable dans le catalogue, mais utilisable d'abord pour les clients hein, qui étaient déjà clients, ben en fait, ils pourront l'utiliser où ils le voudront. Et donc, on écrit aux clients, on leur propose ce nouveau service qui permet d'avoir un chèque chez soi en 48 heures. Et là, c'est le succès absolu, les courriers jusqu'au plafond chez Cofidis. Voilà, c'est un très très grand succès.
Et un succès qui n'est pas sans conséquence. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pauline dans Le Téléphone Sonne sur France Inter. C'était en 1990.
Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis responsable d'une boutique de vêtements dans le centre de Paris. Et je gagne net 6200 francs. Les huissiers, ça fait quelques années que je les règle par mois, donc ça va être bientôt fini. Et la banque, je dois en tout, je pense que je dois 15 000 francs. Ça devrait m'angoisser, mais malheureusement, c'est comme si je vivais avec des dettes. Je n'ai jamais vécu autrement, donc ça ne m'angoisse pas. Ça me fait peur de plus avoir d'argent, mais en même temps, je me débrouille toujours pour en avoir. Je crois que toute ma vie sera comme ça. J'emprunte à Pierre pour rembourser Paul.
Vous avez eu recours à des établissements de crédit ou pas ?
Bah oui. Dans la mesure où, quand la banque ne veut pas prêter, on s'adresse toujours à ces organismes, genre CTLM, Sofinco, etc., etc.
Et avec eux, ça se passe comment ?
Bah, eux, de toute façon, ils vous proposent un crédit qu'il faut leur rembourser. Ça s'appelle les fameux crédits revolving, qui sont très dangereux pour des personnes comme moi, quoi. J'ai été acheter une machine à laver et un réfrigérateur chez Darty. Donc, je leur ai demandé un crédit. La somme était, c'était une petite somme, c'était 3 000 francs. Et automatiquement, ils m'ont imposé un crédit CTLM qui était de 10 000 francs. Ça fait qu'effectivement, j'ai payé ma somme 3 000 francs et après j'ai reçu une lettre de CTLM comme quoi il me restait 7 000 francs à utiliser. C'est aberrant, mais bon, j'en ai bien profité, quoi, c'est vrai. Avec 6 200 francs, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre décemment ?
Hélène Ducourant, que nous dit cet archive qui date de 1990, je le rappelle, des conséquences de la mise en place de ce crédit revolving ? Est-ce qu'on peut parler d'un succès économique que vous évoquiez à l'instant au prix d'une forme de piège social quelque part ?
Alors, c'était un succès populaire tout d'abord, parce que les classes populaires, elles ont beaucoup apprécié cette forme de crédit. Enfin, elles ont été orientées hein, vers cette forme de crédit, mais elles ont été aussi attirées, je dirais, plus positivement, parce que ça leur permettait d'avoir accès à de l'argent. D'abord par, vous savez, dans les magazines télé, en fait, c'était plein de coupons-réponses pour obtenir des crédits revolving. C'était le crédit par téléphone, un peu plus tard, par courrier. Donc, ça permettait de sortir un peu de rapport de classe qui pouvait être des relations avec les banquiers. Donc, c'est un argent sans trop de justification. C'était aussi un soulagement de ne pas devoir se justifier. C'était aussi un argent très cher, hein, avec des taux d'intérêt de plus de 20%. Et surtout, des mensualités un peu automatiques, très très faibles. Si bien que c'était ce qu'on va appeler plus tard le crédit qui ne se rembourse pas. Et qui va faire l'objet, mais vraiment, vraiment plus tard, d'une nouvelle forme d'encadrement avec les lois Lagarde. En tout cas, dans ces années 90, on pouvait avoir très facilement, et 2000, très facilement accès à des formes d'argent, à des encours assez importants et qui, pour certaines catégories de la population, en fait, ont concouru à leur situation de surendettement.
Et puis Hélène Ducourant, vous le disiez, vous l'évoquiez, il y a ces fameuses lois Lagarde de 2010. On pourrait se dire qu'aujourd'hui encore le droit s'adapte aussi à de nouvelles pratiques de crédit, celles qu'on voit notamment liées à la vente en ligne, celles qui permettent de payer par exemple en trois fois sans frais, des pratiques de microcrédit et puis d'échelonnement qui se structurent ainsi. Là encore, il y a une volonté de régulation des pouvoirs publics. Il y a une directive qui a été mise en place, enfin c'est on va dire une mise en place du droit européen en septembre dernier. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une forme de retour de l'encadrement de la puissance publique vis-à-vis de ces formes-là, ou qu'il y a encore plus de dérégulation parce que ces formes sont encore plus insidieuses via le commerce en ligne?
La puissance publique, elle est obligée de s'adapter à l'innovation qui vient des acteurs du crédit. Et les innovations, ces dernières années, elles sont venues de nouvelles fintechs qui, en fait, repoussent un peu plus loin ce qu'on appelle crédit. Et voilà, et du coup, un flou s'était institué entre une facilité de paiement, un crédit, un découvert. Et du coup, on a des nouvelles formes de régulation, mais là encore, enfin, le régulateur, une fois de plus, est pris entre ne pas trop contraindre et ne pas trop refermer, ce qui sont aussi des soupapes et des formes particulières de pouvoir d'achat. Et puis d'un autre côté, au contraire, ne pas laisser aussi exploiter la vulnérabilité des moins riches d'entre nous. Enfin voilà, c'est toujours pris entre les deux. Protéger le pouvoir d'achat, pas trop nuire à la croissance économique. Il y a toujours plein de contradictions entre, dans les transpositions, en tout cas, de la directive. Et je pense que c'est pas fini, là. On ne sait pas encore exactement.
Oui, comment ça va se mettre en place de façon très, très concrète. On comprend que tout est affaire de compromis. Il n'empêche que ces crédits dits non conventionnels sont quand même dans le viseur des autorités. Selon la Banque de France, en 2024, 17% des dossiers de surendettement présentaient au moins un paiement fractionné ou un mini-crédit, contre seulement 7% en 2021. Le surendettement qui fait toujours partie aussi des préoccupations de la Banque de France. Le 14 janvier dernier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gao, avait annoncé que le nombre de dossiers de surendettement est de nouveau parti à la hausse en 2025. Je sais que vous avez un avis là-dessus, Hélène Ducourant. De quoi est-ce le signe, cette explosion?
Tout d'abord, pendant 10 ans, le nombre des dossiers de surendettement n'a fait que baisser. Il a été divisé par 2 en 10 ans. Depuis 2 ans, on a une hausse de ces... On a de nouveau une hausse, mais une hausse qui vient après des années de baisse. Donc, c'est pas non plus très inquiétant.
Donc, il faut relativiser. D'ailleurs, c'est ce que dit Villeroy
de Gao. Il faut relativiser. Et puis, moi, je pense même qu'il faut presque s'en réjouir parce que on sait qu'il y a énormément de Français qui sont en déséquilibre budgétaire. Et le fait qu'ils mobilisent les institutions pour régler leurs problèmes, voire se faire effacer une partie de leurs dettes, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Et plutôt une bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup, Hélène Ducourant, d'avoir participé à cette émission.
Le fil éco. La plupart des salariés valorisent la possibilité de télétravailler. Et ça tombe bien, parce que pour les économistes aussi, le basculement vers des formes de travail hybrides suite à la pandémie est plutôt une bonne chose. Il y a en particulier une équipe d'économistes à Stanford, sous la direction de Nick Bloom, qui ont beaucoup étudié la question en faisant entre autres des enquêtes dans 34 pays situés sur tous les continents. Leur conclusion ? D'abord, les salariés apprécient la possibilité de télétravailler. Plus précisément, ils sont prêts en moyenne à renoncer à 5% de salaire pour bénéficier de l'option de télétravailler 2 ou 3 jours par semaine. Cet ordre de grandeur est vrai dans tous les pays et les chiffres sont plus élevés pour les habitants des grandes villes, car l'une des raisons qui explique la valorisation du télétravail, c'est l'aversion au long trajet pendulaire. Du point de vue du salarié, la possibilité de télétravailler est donc un avantage. Mais qu'en est-il du point de vue de l'employeur ? On est souvent tenté de croire que le télétravail nuit à la productivité. Pourtant, ça n'est pas ce qui ressort des enquêtes. D'une part, le temps de trajet évité est en partie passé à travailler, donc les journées de télétravail sont plus longues que les heures de bureau. Ensuite, il y a moins d'interruptions de collègues, l'environnement est plus calme, ce qui peut être propice au travail de fond. Il y a bien sûr des effets négatifs, comme les difficultés à former les nouvelles recrues, ou la moindre propension à générer collectivement des idées créatives ou innovantes lors de réunions virtuelles que lors de rencontres en chair et en os. Mais dans les modes d'organisation hybrides, dans lesquels les salariés passent par exemple 3 jours au bureau et 2 jours chez eux, ça ne joue pas, car il y a quand même la possibilité de bénéficier des interactions professionnelles physiques, tout en ayant des périodes plus au calme. L'effet sur la productivité du télétravail est donc zéro. Ni positif, ni négatif. Enfin, les salariés sont également plus heureux et moins fatigués, car cela leur permet de mieux concilier leur vie pro et leur vie perso. Et ça a des effets positifs sur la profitabilité des entreprises, car cela réduit le taux de démission. Or, le turnover est coûteux pour une entreprise, car il est coûteux de se séparer de quelqu'un et de recruter quelqu'un d'autre. Plusieurs entreprises ont eu peur de l'effet du télétravail et ont déclaré le retour au bureau obligatoire. Mais cela ne s'est pas du tout accompagné d'une hausse de leur performance. Ainsi, on peut dire que globalement, le travail hybride, qui concerne environ 30% des salariés, tandis que 10% sont 100% en télétravail et 60% sont 100% au bureau, est positif à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Enfin, le télétravail redessine la géographie résidentielle. Les centres-villes en pâtissent, mais les endroits plus éloignés des grands centres urbains en profitent. Et le fait de pouvoir accéder plus facilement à plus d'espace, de pouvoir mieux prendre en charge les obligations liées aux enfants, aura d'ailleurs peut-être aussi des conséquences sur le taux de natalité. Affaire à suivre.
Merci beaucoup Alexandra, le fil de l'écho est à retrouver en podcast et sur l'application Radio France. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.